Voilà, mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Charles-Antoine Bambara, porte-parole de la MONUSCO.
Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditrices, auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. À nos côtés ici à Kinshasa, le porte-parole militaire Félix Prosper Bass, ainsi que les collègues de l'équipe pays des Nations Unies, représentés par Dorothée Clerc pour le pilier développement et Sylvestre Tunga Muligai pour les questions humanitaires. Et nous avons comme invité le docteur Bakary Sambou, expert du paludisme à l'Organisation mondiale de la santé ici à Kinshasa. Il nous présentera un tableau de la situation du paludisme en RDC. Voilà donc pour les rubriques de cette conférence de presse de ce mercredi 30 avril que nous commençons tout de suite avec les activités des composantes de la MONUSCO. Et tout d'abord, cette information brève en provenance de la police de la MONUSCO. Le 26 avril dernier, une délégation de UNPOL FPU, unité de police constituée des Nations Unies, s'est rendue à Kikwik pour apporter des soins nécessaires aux blessés de l'incident survenu le 25 avril au stade municipal de Kikwik lors d'un concert en l'honneur de l'artiste congolais King Kester Imenea, décédé en novembre dernier en France. La délégation a aussi fait un don de médicaments à l'hôpital de référence de Kikwik. Passons tout de suite aux informations de l'équipe pays des Nations Unies. Tout d'abord avec Dorothée Clerc. Dorothée, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les grandes activités menées par les agences des Nations Unies dans le volet développement cette semaine?
Alors, cette semaine, l'UNOPS informe qu'au sud Kivu, grâce à l'amélioration du climat sécuritaire, les travaux reprennent sur la route Buralé-Shabunda qui relie Bukavu, la capitale du sud Kivu, à la ville isolée de Shabunda. C'est l'une des routes prioritaires pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Une cérémonie de reprise des travaux a eu lieu à Shabunda vendredi dernier, en présence entre autres de Marcelin Chichambo, gouverneur du Sud Kivu, et de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Les personnes présentes ont appelé au soutien de tout le territoire pour appuyer les travaux de désenclavement. En effet, bien que l'UNOPS ait poursuivi les travaux sur d'autres sections de la route, le blocage suite à la confiscation en juillet 2013 du matériel de l'Office des routes par les Raya Mutomboki mettait en péril une partie des résultats obtenus par les deux phases du projet financé depuis fin 2009 par le Royaume-Uni avec un budget total de 20,5 millions de dollars. L'UNOPS, qui gère le projet, réalise ses travaux en étroite collaboration avec les autorités nationales et provinciales, avec l'Office des routes ainsi qu'avec la MONUSCO. L'UNOPS travaille avec des entreprises et des ONG congolaises, ce qui a permis de créer à ce jour plus de 400 000 journées de travail rémunérées pour les communautés vivant le long de la route. L'insécurité et l'enclavement font partie des nombreux défis relevés par le projet. Lors de la première phase du projet, terminée il y a 2 ans, les travaux ont permis d'accéder pour la première fois à Shabunda en véhicule 4x4 après plus de 15 ans d'enclavement. Les premiers 45 km de route depuis Buralé, donc de l'autre côté de la route, ont été remis en 2012 au gouvernement qui depuis en assure l'entretien courant. Parmi les résultats, nous notons à titre d'exemple la diminution de la durée du trajet entre Bukavu et Nzibira, qui est actuellement de 2 heures, alors qu'auparavant 2 jours étaient nécessaires en véhicule. La deuxième phase du projet, qui se poursuit actuellement, est essentielle à la consolidation des acquis. Plus de 160 ouvrages d'assainissement sont en cours de construction ou d'amélioration. Des renforcements importants de la chaussée sont nécessaires sur 253 km, d'autant plus que les arrêts des travaux sur la chaussée depuis juillet 2013 suite à la confiscation du matériel a entraîné de fortes dégradations. Les travaux demanderont des interventions mécanisées, mais également des travaux avec des méthodes à haute intensité de main-d'œuvre permettant de travailler avec les communautés riveraines, entre autres avec les femmes et les personnes démobilisées. L'UNESCO, à présent, nous informe que la Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée le 3 mai, comme chaque année. Sera célébrée le 3 mai comme chaque année. Elle est axée cette année sur le thème « La liberté des médias pour un avenir meilleur », élaboration du programme de développement pour l'après 2015. Avec l'appui bureau de l'UNESCO à Kinshasa, ainsi que la MONUSCO et la Fondation Hirondelle, le ministère des Médias organise ce samedi 3 mai 2014, sous le patronage du Premier ministre, trois activités. Premièrement, une cérémonie de célébration officielle de la Journée mondiale au cercle de Kinshasa. Des parlementaires, des membres du gouvernement et des acteurs des médias prendront part à cette cérémonie qui sera marquée par le discours du ministre de la Communication et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ainsi qu'il y aura également donc une rencontre débat sous forme d'un dialogue multiparti en partenariat avec la Fondation Hirondelle et l'association Journalistes en danger. Cette rencontre réunira les experts médias et des journalistes autour du thème « Un journalisme viable et professionnel, partie intégrante du développement. À quoi sert un journaliste ?» point d'interrogation. C'est le thème. Troisième activité, un bal de la presse dans la soirée à l'hôtel Vénus de la Gombe. À cette occasion, le gouvernement congolais procédera à la remise des Oscars de la presse congolaise pour l'année 2014. À l'issue de cette conférence de presse, il sera distribué le message conjoint de M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et de Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion donc de cette journée mondiale. Autre journée mondiale cette semaine, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, nous informe que la journée mondiale pour la sécurité et la santé du travail a été marquée par le lancement le 28 avril d'une série d'activités liées à cette question par le ministre congolais de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, qui était accompagnée par les organisations d'employeurs et de travailleurs de la RDC. La directrice de l'OIT en RDC, Madame Aminata Maiga, a pris part à cette cérémonie. Cette année, le thème international de la journée est la sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail. Il faut noter que, de par le monde, toutes les 15 secondes, un travailleur meurt d'un accident ou d'une maladie liée au travail. Toutes les 15 secondes, 160 travailleurs sont victimes d'un accident lié au travail. Et chaque jour, 6300 personnes meurent d'un accident ou d'une maladie liée au travail également. Au total, 317 millions d'accidents se produisent chaque année. Deux informations du PNUD à présent, donc le programme des Nations Unies pour le développement. À Kinshasa, un atelier de formation a réuni lundi et hier près de 700 coopératives de la microfinance, du crédit et de l'épargne pour promouvoir la transparence financière de ces institutions en RDC. Plus la transparence financière est grande, plus élevée sera la confiance des clients et cela incitera également les bailleurs à investir dans ce type d'institution de microfinance accessible aux populations vulnérables. L'épargne et le crédit sont des outils majeurs du développement humain durable car ils permettent aux populations vulnérables d'épargner, d'améliorer leurs revenus, de dégager un bénéfice de leurs activités grâce auxquelles elles pourront ensuite scolariser leurs enfants, accéder aux soins de santé et sortir du cercle vicieux de la pauvreté chronique. Fin 2012, en RDC, on a recensé 149 structures financières de proximité, dont 126 COPEC et 23 IMF, avec une forte concentration dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Et Kinshasa. Donc le Nord Kivu, le Sud Kivu et Kinshasa. Plus d'un million de comptes y ont été ouverts, dont près de 53% sont détenus par les femmes. Cet atelier de formation est une initiative des associations professionnelles du secteur de la microfinance avec l'appui du programme conjoint PASMIF, donc le programme d'appui à la microfinance, ainsi que le PNUD, de l'UNDCF qui est un fonds des Nations Unies, des coopérations belges, suédoises et allemandes. Autre information du PNUD concernant la filière café, qui est relancée à l'est de la RDC. Le PNUD soutient l'organisation d'un atelier qui se tient depuis hier sur le développement et l'organisation de la filière café dans l'est du pays, plus précisément au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'atelier a commencé hier et se termine aujourd'hui à Goma. Organisé à l'initiative de l'ONG internationale Café Africa, et soutenu financièrement par le PNUD, cet atelier rassemble de nombreux acteurs de la filière café afin d'identifier les actions prioritaires pour le déploiement de ce secteur. Il doit également développer et renforcer les initiatives publiques et privées entreprises pour la relance de la culture du café. Près de 300 participants sont rassemblés, provenant d'associations de fermiers ruraux, d'organisations d'appui, du monde universitaire, du gouvernement provincial, ainsi que du secteur privé. Cet atelier doit être mis à profit pour permettre d'améliorer les revenus des petits producteurs de café et des opérateurs locaux à travers la facilitation des échanges économiques, l'amélioration des prix et l'augmentation de la production. Le PNUD soutient cet atelier dans le cadre de son programme de coopération avec la RDC et de croissance inclusive et développement durable. Celui-ci vise le développement économique créateur d'emplois durables qui s'intègrent dans des filières économiques porteuses, structurées et respectueuses de l'environnement. Merci.
Merci Dorothée. Nous nous tournons à présent vers Sylvestre Tunga Mudigayi. Sylvestre, bonjour.
Bonjour Charles.
Que faut-il retenir cette semaine de l'actualité humanitaire en RDC?
D'abord, cette mission dont on parlait la semaine dernière, une mission qui s'est rendue dans le territoire de Bukama, dans la province du Katanga. La mission est partie, elle est revenue. Elle est allée faire le point des inondations qui avaient frappé ce territoire à la suite des pluies du 8 à avril. Constat sur place, 14 600 personnes sont aujourd'hui sans abri dans ces territoires, des habitations et des édifices publics. Notamment, 3 centres de santé et 11 écoles ont été détruites. Les écoles étaient fréquentées par quelques 3200 élèves. Et il y a crainte d'une explosion de maladies d'origine hydrique à la suite de ces inondations. Les personnes sinistrées se trouvent dans des familles d'accueil, des églises et des écoles. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis à disposition des centres de santé sur place des médicaments essentiels. Et ces médicaments peuvent prendre en charge quelques 3000 personnes pendant 3 mois. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a remis 3 modules antipaludéens et que 2 kits de rougeole. Pour les cas simples, les responsables territoriaux de l'éducation s'occupent de regrouper les élèves sinistrés dans des écoles qui ont été épargnées par les intempéries. Le territoire de Bukama n'est pas à ses premières inondations. 2008, 30 000 sinistrés, 2010, 18 000 sinistrés, et cette fois-ci, 14 600 et plus. Cela remet sur la table la nécessité d'avoir un plan de préparation et des réponses aux inondations et catastrophes naturelles dans la province du Katanga. Quelques 8 700 personnes déplacées fuyant l'insécurité à Missisi dans les territoires de Fizi se trouvent dans le territoire de Kalemi, dans la province du Katanga. Selon des sources locales, 6 000 personnes sont présentes à Mupanda, où 250 abris ont été incendiés le 27 avril lors d'une attaque des Mai Mai, laissant des centaines de ménages sans abri. 2 700 autres personnes déplacées se trouvent à Manyanga et sont sans assistance. Une mission humanitaire est prévue dans les prochains jours pour une évaluation rapide de la situation. Dans le territoire de Moba, c'est 5 villages qui ont été incendiés par des Mai Mai lors d'un affrontement entre le 9 et le 11 avril contre l'armée nationale congolaise, poussant 1 200 personnes au déplacement. Plus de 27 000 personnes déplacées internes bénéficient depuis ce lundi d'une assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial à Ngungu, localité située à 80 km au sud-ouest de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette assistance coordonnée avec Caritas vise à améliorer la consommation alimentaire des familles vulnérables et réduire ainsi l'incidence de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que chez les femmes enceintes et allaitantes. Ces personnes déplacées sont arrivées en plusieurs vagues entre août 2013 et mars 2014. Voilà, chien.
Merci Sylvestre. À présent, le colonel Félix Pourser-Basse. Colonel, bonjour.
Bonjour Charles et bonjour à tous.
Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité militaire cette semaine à RDC?
L'activité militaire, en survolant la situation dans toute la RDC, nous pouvons dire que de manière globale, elle est calme, quoique imprévisible. C'est ainsi que, sans déroger à la règle, nous démarrons ce survol par l'ouest de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire durant la semaine écoulée a été jugée relativement calme. C'est ainsi que les forces onusiennes et congolaises poursuivent leurs efforts visant à neutraliser les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur et l'ERA dans les districts des Hauts et Bas-Ouélé. À cet effet, trois opérations conjointes continuent d'être menées dans cette province dans le but de contraindre les rebelles ougandais à la reddition. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la force de la MONUSCO, maintiennent la pression militaire contre les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI au sud du territoire d'Iromo. C'est dans ce cadre que la MONUSCO a déployé des troupes d'intervention rapide aux postes opérationnels de Tchabi et Idohou dans le but d'interdire toute incursion des rebelles de l'Alliance des forces démocratiques au sud du district. Les forces onusiennes et congolaises y mènent aussi trois opérations conjointes dénommées Pierre d'Acier, Serre de l'Aigle et Coup de Patte du Tigre. Dans le but de sécuriser les populations vivant dans les localités situées dans le territoire de Mambasa, la force onusienne a établi un poste opérationnel à Epoulou pour contrôler l'axe Epoulou, Moloka et Badengaido suite à l'attaque perpétrée par les éléments du groupe Maïmaï Morgan à Kakolo, situé à 90 km au sud-ouest de Mambasa Centre, au cours de laquelle 6 femmes ont été violées, 10 ont blessé par balle, plusieurs objets de valeur emportés et des jeunes kidnappés. Au Nord Kivu, le climat sécuritaire est relativement calme mais reste imprévisible. En effet, avec la conquête du camp Médine, les FRDC, soutenus par la force de la MONUSCO, contrôlent désormais toutes les positions initialement occupées par l'Alliance des forces démocratiques ADF et poursuivent dans la région leurs opérations de bouclage et de ratissage dans le but de neutraliser toutes les poches de résistance ennemies. Le 22 avril, 7 rebelles de l'ADF ont été appréhendés par les FRDC dans la région de Médine et à Nobili. Dans le territoire de Massissi, les FRDC et la MONUSCO maintiennent la pression contre les miliciens de l'APCLS dans la région de Kachéberé. Le 30 avril, les éléments de l'Alliance, donc aujourd'hui, les éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, ont attaqué le poste opérationnel de la force de la MONUSCO et les positions FRDC situées à Birere 1 et Kishoga. 6 soldats des FRDC ont été tués, 3 autres blessés, ainsi qu'un casque bleu de la MONUSCO, tous évacués à l'hôpital de niveau 3 à Goma. Les troupes de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO ont vigoureusement réagi et soutenu les FRDC par des troupes au sol et par un appui feu aérien permettant aux forces gouvernementales de reconquérir Birere 1 momentanément contrôlé par la PCLS. Environ 4000 individus ont trouvé refuge au poste opérationnel de la force de la MONUSCO à Nyabiondo. Dans le territoire de Walikale, les Maïmaï Ndouba Défense du Congo, NDC, sont à la base de l'insécurité dans la région de Bunyampouli, mais également celle de Kachéberé, où les troupes gouvernementales ont lancé une opération dans la localité de Mungazi, située à 21 km à l'ouest de Kachéberé, repoussant Tcheka et ses hommes vers Kichanga et Ishuga. Ces Maïmaï ont également été signalés au sud du territoire de Lubero. Dans le territoire de Rutshuru, le climat sécuritaire est pollué par les activités négatives des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et des Maïmaï fidèles. Des combats récurrents opposant les FRDC au FDLR ont émaillé la semaine écoulée, notamment à Nyaruhange, 2 km d'Ishasha, Tongo, dans le parc de Virunga, et Nyamilima, au cours desquels 6 combattants FDLR ont été tués et 3 autres appréhendés. D'autres affrontements ont été rapportés à Buganza, 5 km au nord de Nyamilima, au cours desquels 4 rebelles FDLR ont été tués et leurs armes récupérées par les FRDC. Selon les rapports d'une mission d'enquête de la MONUSCO menée du 15 au 17 avril dans la région, les éléments Maïmaï fidèles ont tué 2 individus et kidnappé 21 autres, tandis que 23 femmes ont fait l'objet de viols. Depuis le 15 avril 2014, le général de brigade tanzanien Ramadan Abdul Kimweri, commandant de la brigade d'intervention, est arrivé à Goma en remplacement du général de brigade James Mwakibolwa. Au total, 85 éléments en provenance des différents groupes armés se sont rendus aux troupes onusiennes et aux différents bureaux de la section DD3R. Au sud Kivu, l'environnement sécuritaire est sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. C'est ainsi que le 24 avril, 3 éléments du Front National de Libération, FNL, et un militaire des FRDC ont été tués suite à l'attaque lancée par les FRDC contre les positions de ces rebelles burundais situés dans les moyens plateaux de Runingu, à 20 km au nord-est d'Uvira. Le même jour, le chef rebelle des Maïmaï Rahia Mutombo Kushimita s'est rendu avec 10 miliciens au camp des D3R d'Itemene, situé à 3 km à l'est de Shabunda. Au Katanga, le climat sécuritaire est marqué par les activités négatives d'éléments Maïmaï Bakata Katanga, rapportés dans le territoire de Manono, Mitwaba et Pueto, mais aussi par une vague importante de reddition enregistrée dans la province. Le 20 avril, 174 miliciens pygmées se sont rendus aux troupes FRDC déployées à Mukebo et ont été transférés à Luaba pour leur prise en compte. Le 22, 400 éléments Maïmaï Bakata Katanga se sont rendus avec 5 armes AK-45 et un lance-roquettes aux militaires FRDC basés à Kabuela, situé à 165 km au sud-est de Kalemie, dans le territoire de Moba. Le 27 avril, 12 autres éléments Maïmaï Bakata Katanga non armés, dont le chef rebelle Kasongo Luela, se sont rendus aux forces spéciales égyptiennes de la force de la MONUSCO déployées à Pueto et ont été remis au FRDC pour leur prise en compte. Le secteur 2, quant à lui, est calme. Et concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 2019 armées, dont 564 nocturnes et fourni 34 escortes. Je vous remercie de votre attention.
Merci, colonel. À présent, nous allons passer à l'invité de cette conférence de presse. Il s'agit du docteur Bakary Sambou. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes expert donc du paludisme à l'Organisation mondiale de la santé ici à RDC. On a célébré la semaine dernière la journée internationale de lutte contre le paludisme. Quel est le tableau de la situation ici dans le pays?
Merci. Merci à vous et à votre organisation pour cette occasion que vous nous offrez. Et je commencerai par dire que vous n'êtes pas sans savoir que le paludisme est une des maladies les plus meurtrières au monde. Et la région africaine de l'OMS continue de supporter la majeure partie du fardeau du paludisme au niveau mondial. Selon les rapports de l'OMS qui a été publié le 11 décembre dernier et qui donne les chiffres du paludisme, de la situation du paludisme en 2012, 627 000 décès imputables au paludisme ont été enregistrés dans le monde. Sur les 627 000, 90% ont lieu en Afrique subsaharienne. 77% de ces décès, c'est des enfants de moins de 5 ans. Et 87% de ces décès surviennent uniquement au niveau de 17 pays, c'est-à-dire concentrés au niveau de 17 pays. La région africaine, sur les 207 millions de cas de paludisme qui ont été enregistrés globalement, la région africaine seule enregistre les 80% des cas de paludisme. C'est pour vous dire combien le paludisme constitue un poids énorme en Afrique. Et de cela, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la RDC et le Nigeria représentent à eux deux 40% du poids total du paludisme au niveau mondial. C'est pour vous dire que nous sommes dans un pays où le paludisme est une endémicité assez élevée. Le paludisme demeure un défi pour la République démocratique du Congo. Et les rapports du ministère de la Santé, faits en collaboration avec les organisations, montrent qu'en 2013, 11 363 817 cas de paludisme ont été enregistrés. Et sur ce, 30 918 décès ont été déplorés en 2013. Autrement dit, si vous rapportez ces chiffres, vous avez à peu près 84 ou 85 décès par jour du paludisme. Tous les jours que nous vivons, 87 vies sont perdues au niveau de la RDC due au paludisme. Et au-delà de ces décès, il faut reconnaître que le paludisme, c'est aussi un impact social et économique assez important au niveau de la population. C'est la cause de pauvreté énorme au niveau des ménages. Il occasionne des dépenses assez fréquentes au niveau des ménages, l'absentéisme au niveau du travail et l'absentéisme au niveau des écoles impacte négativement la performance des élèves. Donc le paludisme, ce n'est pas simplement un problème de décès et de mort, mais c'est aussi un problème économique extrêmement important. Toutefois, les années écoulées, de 2000 à 2012, des progrès ont été notés. Au point de vue mortalité, il y a eu une baisse de 54%. Chez les enfants de moins de 5 ans et de 49% au niveau de la population totale. Cette baisse du décès lié au paludisme est en rapport avec un financement de la lutte contre le paludisme. Les partenaires ont apporté un financement massif à la lutte contre le paludisme dans les années 2004 à 2005 et ce financement s'est accru jusqu'à 2010-2012. On a senti une petite baisse en 2011 Et là, il y a des initiatives en cours qui permettent certainement de relancer les activités de lutte contre le paludisme au niveau mondial et au niveau de l'Afrique surtout. Il faut aussi retenir autre chose sur les décès au niveau mondial. Quand on enregistre les 15 millions de décès chez les enfants au niveau mondial, le paludisme lui seul représente 20%. 20% de ces décès. Donc c'est énorme. Autrement dit, si on n'agit pas de façon conséquente sur le paludisme, il va être très difficile d'atteindre l'objectif de l'OMD 4. Parce que déjà, si le paludisme représente 20%, il va falloir faire un effort au niveau du paludisme si on veut atteindre l'OMD 4 d'ici 2015. Des avancées sont notées au niveau des pays, particulièrement au niveau de la RDC. La RDC fait partie des pays qui ont élaboré les premiers plans stratégiques et depuis octobre dernier, ce plan a été revu, un plan quinquennal qui a été élaboré et en 2014, ce plan est en cours de mise en œuvre. Pour vous dire que la mise en œuvre de ce plan stratégique est efficiente, est déjà en cours et en 2013-2014, jusqu'à début 2014, le pays a distribué 9 millions de moustiquaires imprégnés en longue durée d'action. Ce n'est pas une petite chose. Distribuer 9 millions de moustiquaires en 3 mois, ce n'est pas un travail facile, mais il est arrivé à ça. Et ces 9 millions de moustiquaires qui ont été distribués entre le mois de novembre et le mois de février dernier sont venus se rajouter à ce qui a déjà été fait bien avant, en 2013, c'est-à-dire les 5 676 moustiquaires qui ont été distribués auparavant. C'est dire combien des efforts sont en cours d'être faits au niveau du pays pour enrayer ou pour une lutte efficace contre le paludisme. Mais en dehors de la distribution de ces moustiquaires qui constituent le volet préventif essentiel de la lutte contre le paludisme, le pays a adopté toutes les directives de l'OMS et sont en cours de mise en œuvre, à savoir la prise en charge précoce des cas de paludisme par un diagnostic de confirmation avec les tests de diagnostic rapide, et le pays a acquis d'une quantité importante de dérivés d'artémisinine pour la prise en charge des cas du paludisme. Cette prise en charge se fait aussi bien au niveau des formations sanitaires et le pays est en train de faire un effort important pour que cette prise en charge soit effective au niveau communautaire et avance plus. Parce que maintenant, ce n'est plus un tabou. Le diagnostic du palud peut se faire même à la maison et un traitement efficace peut se faire à la maison parce que c'est là où se trouve le gros problème, le nœud du problème. Si on n'avance pas au niveau communautaire, ça va être très très difficile d'amener une lutte efficace à ce niveau. Les moustiquaires, donc les partenaires, ont apporté un encouragement et au moment où on vous parle, le programme avec tous les partenaires sont en réunion pour élaborer la note conceptuelle qui va être envoyée au Fonds mondial. Et le Fonds mondial apportera des ressources additionnelles pour pouvoir lutter efficacement au cours des 3 prochaines années, venir renforcer ce que d'autres partenaires comme PMI, des partenaires comme l'UNICEF, l'OMS et d'autres partenaires sont en train de faire à ce niveau. Il faut saluer aussi le rôle important de la société civile, qui joue un rôle extrêmement important. Une société civile dynamique qui accompagne le programme, accompagne le gouvernement dans la lutte contre le paludisme. Nous espérons que, avec cette mobilisation, l'OMS, à l'œil rivé, et la communauté internationale, Rollback Malaria, regarde de façon attentive ce qui se passe au niveau de la RDC, parce que, comme je vous l'ai dit,